Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
En tant que chrétien, nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode ou par complexe d'infériorité devant l'effondrement moral et humain. Alors que nous affirmons la beauté de la famille, nous sentons plus que jamais que nous devons la défendre. Ne permettons pas qu'elle soit polluée par les poisons de l'égoïsme, de l'individualisme, de la culture de l'indifférence et du rejet, et qu'elle perde ainsi son ADN, qui est l'hospitalité et l'esprit de service. Amis auditeurs, bonjour. Cette citation du pape François sur l'importance d'une conception chrétienne de la famille nous invite à tenir bon dans la bataille et les oppositions politiques qui cherchent à détruire la cellule familiale. Découvrons aujourd'hui la place de la famille aux Philippines, un des pays les plus chrétiens au monde. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur d'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour évoquer ce sujet si brûlant, je reçois aujourd'hui Jérémy Yanni. Bonjour Monsieur Yanni.
Bonjour Joseph Saunier.
Jérémy Yanni, vous êtes doctorant contractuel en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8. Vous êtes rattaché à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, l'IRASEC. Vous habitez à Manille et vous travaillez sur les manifestations du pouvoir évangélique aux Philippines. En guise d'introduction, Jérémy Yanni, pourquoi avoir choisi de travailler sur les Philippines ?
Donc je suis arrivé aux Philippines en 2015 puisque j'étais volontaire permanent dans le mouvement ATD Quart Monde. Voilà, donc le mouvement ATD Quart Monde m'a proposé de rejoindre l'équipe des Philippines et c'est ainsi que je suis arrivé dans l'archipel avant de reprendre mes études et de commencer ma thèse. Donc ça s'est fait naturellement ensuite d'enclencher sur mes recherches là où je vivais aux Philippines.
Vous êtes tombé amoureux de ce pays, vous avez décidé de ne plus le quitter ?
C'est bien ça, vous avez tout compris.
Les Philippines sont l'un des derniers pays au monde, avec le Vatican à interdire le divorce. Début février, un nouveau projet de loi l'autorisant est arrivé au Parlement, mais cette proposition a échoué au Sénat philippin qui ne l'a même pas examinée. Comment est-ce que vous expliquez cette attitude, Jérémy Yanni ?
Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs projets et propositions de loi sur la légalisation du divorce. Et le système politique fait que le mandat du président dure 4 ans, et que tous les 2 ans, on a des élections de mi-mandat. Et donc, à chaque fois qu'il y a une élection, il y a une mise en suspens un petit peu des projets de loi qui sont mis en discussion, et systématiquement, celui-là, en fait, est abandonné. Ça permet de ne pas terminer la conversation, puisqu'il y a de fortes chances ou de forts risques, selon les points de vue, qu'il soit voté quand même, malgré toutes les réticences qui existent au sein du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale philippine. Donc, moi, j'analyse ça comme un petit peu des tactiques, on va dire, bureaucratiques qui sont un petit peu mises en œuvre pour ne pas aller au bout de la démarche.
On sent que c'est un sujet qui est particulièrement sensible dans ce pays très majoritairement chrétien. La France aussi est un pays chrétien et pourtant, ça fait plus d'un siècle qu'elle a décidé de légaliser le divorce. Comment est-ce que vous expliquez qu'aux Philippines, le divorce soit toujours interdit ?
C'est une grande question. En fait, dans le discours de l'Église, le divorce est toujours associé au mal. Dans le discours aussi des églises évangéliques, pas que de l'Église catholique, il est associé au mal. Mais il y a une spécificité aux Philippines, c'est que les musulmans peuvent divorcer. C'est quelque chose dont on parle peu. C'est parce que le système juridique islamique est pris en compte aux Philippines et qu'un mariage musulman peut être annulé, contrairement à un mariage non musulman. Et finalement... Peut-être que c'est une tentative de résister un petit peu au libéralisme aussi, de se focaliser sur le maintien d'unité familiale. C'est noté dans la Constitution, dans le préambule. C'est vrai que toute la société philippine est construite sur la famille comme lieu de socialisation, mais aussi comme lieu d'éducation morale, pas que de socialisation. Et faire voter une loi qui pourrait la faire détruire, je pense qu'ils prennent quand même des précautions avant d'y aller. Surtout quand ils voient un petit peu les abus, ça a été une colonie américaine, donc ils sont quand même exposés au nombre croissant, même explosif, de divorces dans les sociétés occidentales. Et je pense qu'il y a aussi un désir de ne pas se retrouver dans cette situation dans 15 ans, voilà, que ça devienne hors de contrôle pour eux.
Vous nous parlez d'une lutte contre le libéralisme. Selon vous, quels sont les principaux moteurs, les principaux ressorts de cette lutte ?
Contre le libéralisme ? Par exemple, l'interdiction du divorce en est un. La difficile mise en œuvre de la contraception, l'absence de planning familial, en fait, ça touche beaucoup à la famille. C'est vrai qu'il y a, beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour aider la famille. Encore une fois, quand je dis aider, ça dépend de la perspective, bien sûr, mais des mesures contraceptives, de planning familial, de discussion même, d'information sur ce qu'est la sexualité. Tout ça, il y a de fortes résistances dans les politiques, mais je pense que c'est parce que ça peut être connoté comme des voies un petit peu qui vont faire exploser la cellule familiale, tout simplement. Donc, faut pas ouvrir cette boîte de Pandore.
On peut noter donc l'importance centrale du christianisme aux Philippines. Mmh. Est-ce que vous pensez que le rôle du christianisme explique aujourd'hui que le divorce soit encore interdit, que la contraception soit compliquée et que finalement on veuille résister pour protéger la cellule familiale?
Il y a le rôle du christianisme, ça me semble assez sûr dans les discours et les prises de position qui sont faites par les leaders religieux. Mais il y a, je pense, aussi l'histoire anticommuniste, parce qu'aux Philippines, on a eu un régime anticommuniste pendant une trentaine d'années, c'était sous l'égide américaine. Donc, pour éviter que le communisme se propage dans l'archipel, ça a été pareil en Indonésie. Et donc, dans les autres pays d'Asie, c'est aussi les révolutions communistes et populaires qui ont permis ce qu'ils appellent la libéralisation et la libération de la morale, de leur point de vue à eux. Bon, moi, je suis en désaccord. Mais en tout cas, il n'y a pas eu ces transformations sur le plan historique aux Philippines. Donc, je dirais qu'il y a à la fois le discours de l'Église, les prises de position de l'Église, mais aussi l'histoire politique de l'archipel qui rentre en compte là-dedans.
La conférence des évêques philippins déclarait que légaliser le divorce aux Philippines porterait seulement à détruire de nombreuses familles. Mmh. Les Philippins méritent mieux que ça, a affirmé le porte-parole. Mmh. Il demandait notamment aux législateurs de travailler pour modifier les lois existantes sur les séparations conjugales, mmh, dans un parcours qui respecte la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour justement les couples qui souhaiteraient se séparer? On pense notamment aux violences conjugales, mmh, on pense peut-être à l'infidélité. Mmh. Et selon vous, est-ce que un jour le divorce sera légalisé?
Mmh. Il y a une procédure qui s'appelle annulment, on dit. Donc c'est pas un divorce, mais c'est que le mariage est considéré comme plus valide parce qu'il y avait un vice de procédure, hein, sur le plan juridique au début, et donc ça pousse beaucoup de familles qui veulent faire annuler le mariage à faire reconnaître une fausse pathologie psychiatrique en produisant des certificats médicaux pour que l'un des époux soit diagnostiqué comme ayant un trouble psychique ou psychiatrique. Et là, ça rentre sous le coup de la procédure d'annulment. Donc ça oblige un petit peu les familles qui souhaitent ancrer légalement la séparation à développer, moi j'appelle ça des clandestinités ou des résistances, ça dépend comment on les voit. Mais en tout cas, elles doivent chercher une manière de faire, c'est clair. Mais dans la pratique, la majorité des couples séparés, puisqu'il y en a, c'est pas parce que le divorce n'est pas légal que les gens ne se séparent pas, ne se disputent pas et arrêtent de s'aimer. Ça se passe dans le quotidien. Les personnes vivent séparées. Ça pose d'ailleurs des problèmes quand elles rencontrent d'autres personnes et qu'elles ont des enfants avec d'autres personnes. Parce que pour déclarer les enfants, ça ne fonctionne pas. Donc il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations de non-droit sur le plan juridique à cause de ça. Voilà.
Vous diriez que la société philippine réclame aujourd'hui la légalisation du divorce, mmh, ou que cette inspiration chrétienne justement leur conduit à finalement accepter cet état de fait et à se réjouir peut-être que aujourd'hui la famille soit protégée par la loi du pays, la loi naturelle, c'est-à-dire la loi de Dieu.
Mmh. C'est ce qui est intéressant, c'est que la loi sur le divorce, elle a été votée par le Congrès, donc c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Donc elle est quand même soutenue maintenant, même par une des deux chambres parlementaires. Le Sénat, ils sont 12. Et au Sénat, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, il y a vraiment des sénateurs protestants évangéliques qui sont vraiment contre parce qu'ils affirment cette position théologique au Sénat. Mais je crois que par rapport à ce discours, c'est ce que je crois moi, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais une majorité de la population, elle vit l'expérience, en tout cas, n'est pas corrélée à ce discours. quand on parle dans la rue, moi j'étais enseignant de français, donc c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément en classe avec les étudiants, mais on parle quand même de la famille, et c'est quand même toujours une des premières choses qu'ils disent, hein, nous il n'y a pas de divorce, c'est interdit, et puis il y aura toujours un petit commentaire derrière pour dire, faudra que ça change un jour parce qu'on veut vivre. C'est ça qu'ils disent. Moi, mes étudiants, c'est ça qu'ils me disaient. Donc j'ai l'impression qu'il y a un écart quand même entre le discours, c'est normal qu'il y ait un écart entre le discours et la pratique, mais là, il est particulièrement visible.
Vous diriez que la libéralisation qui n'a pas atteint encore le politique a atteint la société philippine et donc qu'elle rattrape finalement les Philippines dans son entier.
Ça me semble assez visible, notamment avec la place des couples homosexuels ou la place des personnes transgenres qui sont intégrées dans le monde du travail, pas comme ici en France, mais qui sont beaucoup plus visibles, qui peuvent présenter des émissions de radio, de télé, même interviewer le président. Hein. On a eu des émissions comme ça dans les campagnes électorales. Donc c'est vrai qu'il y a un écart vraiment entre le discours et la pratique. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, du point de vue occidental, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le quotidien aux Philippines et ça crée des hybridités qui sont vraiment incomprises de l'extérieur. Il faut des années, il faut y vivre des années pour comprendre et saisir un petit peu ce qui s'y joue. Hein.
Ouais. Et plus largement, Jérémy Yanni, existe-t-il des politiques familiales mises en place par les gouvernants politiques ?
Avant d'être élu président, Rodrigo Duterte avait mis en place le planning familial avec l'information et la contraception dans la région de Davao, dans le sud de Philippines. Et il avait justement mobilisé cet argument quand il avait fait campagne en 2016. C'est aussi sa manière de critiquer l'Église catholique. Bien sûr, c'est toujours orienté politiquement, mais oui, il existe des initiatives, mais politiques, mais elles sont souvent relayées par les organisations de la société civile qui rentrent quand même en partenariat avec les régies de gouvernement local, mais qui proposent des moyens de contraception gratuits et des informations pour aussi lutter contre les préjugés. Je peux vous en donner un qui est assez courant aux Philippines, c'est le fait, par exemple, de dire qu'en buvant du jus de noix de coco, après avoir eu un rapport non protégé, ça évite de tomber enceinte, voilà. Donc c'est vrai que sur le plan médical, moi j'aimerais qu'on me le prouve, voilà, ça ne tient pas bien. Mais justement, il y a quand même des groupes qui s'occupent de lutter contre les préjugés et au moins diffuser l'information. Après, les gens s'en emparent ou non. Mais il y a quand même une volonté.
Jérémy Yanni, on reste avec vous sur ce sujet passionnant qui est la famille aux Philippines. On se retrouve tout de suite, juste après ça.
Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde, qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es je te protège si longtemps.
Amis auditeurs, c'était Famille de Jean-Jacques Goldman. Vous avez bien sûr reconnu la voix de notre Jean-Jacques préféré. Nous retrouvons Jérémy Yanni, doctorant contractuel en sciences de l'éducation à Paris 8, qui habite aux Philippines, qui travaille sur les manifestations du pouvoir évangélique aux Philippines. Juste avant la pause musicale, Jérémy Yanni, vous évoquiez l'ancien président Rodrigo Duterte et vous disiez qu'il cherchait à lutter contre l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de ça? Est-ce que le politique entre en conflit avec la religion aux Philippines?
Oui, c'est pour des raisons historiques tout d'abord, puisque l'Église catholique a été l'un des contre-pouvoirs les plus importants sous la dictature Marcos. Donc déjà pour cette raison historique, les liens entre l'Église et l'État sont toujours au cœur du débat public. Par rapport aux critiques du président, enfin de l'ancien président Duterte, c'est qu'il avait pris la décision et développé la politique de lutter contre la drogue, mais de le faire d'une manière, avec une approche pédagogique qui est un peu douteuse, on va dire, c'est-à-dire en faisant une chasse aux sorcières, en enfermant les personnes et en demandant à la police de tuer les suspects. Ce qui a fait scandale vraiment dans l'archipel. Et l'Église catholique, bien sûr, a pris position contre, ce qu'elle fait de moins en moins, parce qu'elle cherche aussi sa place dans un monde dans lequel l'Église et l'État sont séparés. Donc c'est la sécularisation. Mais là, c'était trop, les bornes avaient été dépassées. Donc ils ont vraiment pris... ils ont fait des communiqués de presse pour dire qu'ils étaient vraiment contre, qu'il fallait développer d'autres approches, que oui, bien sûr, il faut lutter contre la drogue, mais pas de cette manière. Et ils se sont pris les foudres de Rodrigo Duterte. Donc ils ont une relation qui n'a jamais été bonne. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais il a insulté vraiment le cardinal Tagle, le pape. Enfin, pendant la visite du pape, il y a été des torrents d'insultes qui ont fait scandale dans l'archipel, vraiment.
Vous nous avez parlé du Congrès, vous nous avez parlé de députés qui sont chrétiens. Mmh. Est-ce que vous diriez que la religion a une place centrale dans les débats politiques au sein de ce Parlement ?
Oui, elle a une place centrale sur toutes les questions qui touchent à la famille notamment, mais aussi à l'éducation. Puisque c'est pas alors dans le contexte des Philippines, c'est pas choquant. Il arrive très régulièrement que les sénateurs en fait s'appuient sur des versets bibliques pour appuyer leur point de vue, le point de vue politique qu'ils développent. Par exemple, le sénateur Manny Pacquiao, donc qui est protestant évangélique born again, il a développé un projet de loi pour rétablir la peine de mort et pour ça, il s'est appuyé sur sa lecture de la Bible. Bon, qui pose des questions théologiques, mais en tout cas, c'est la sienne. Et il a convoqué des versets bibliques pour montrer que l'autorité civile avait le droit de condamner à mort les personnes qui ne la respectaient pas au nom de la Bible. Donc ça se passe au Parlement.
Manny Pacquiao, qui a une voix très écoutée, puisque c'est un ancien boxeur très célèbre philippin. Et donc, il a beaucoup d'influence sur les Philippines. Mm-hmm. Pour quitter le terrain politique, Jérémy Yanni, et puis pour parler de ce qui se passe concrètement... dans les familles au sein des quartiers. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état des lieux, de la pauvreté aux Philippines? On s'imagine peut-être des bidonvilles extrêmement pauvres avec des familles qui essayent de survivre. Mmh. Où en est la pauvreté aux Philippines?
Aux Philippines, il y a un phénomène toujours d'exode rural, c'est-à-dire que la ville de Manille, elle grandit tous les 5 ans. Ils estiment qu'il y a 20% de nouveaux arrivants. Donc là, il y a à peu près pratiquement 27-28 millions d'habitants dans la région de Manille. Et j'ai regardé les chiffres avant de venir, ils estiment à peu près 40% de la population qui vit dans un bidonville. Mais une des premières caractéristiques de la pauvreté, c'est qu'elle est inattrapable par les statistiques parce que ces personnes, une majorité d'entre elles, n'ont pas de certificat de naissance, donc on ne peut même pas les compter puisqu'elles n'existent pas sur le plan strictement légal, quoi. Moi, j'ai travaillé dans un cimetière public, donc les personnes vivent dans des mausolées. J'ai travaillé aussi sous un pont. Il y avait sous le pont une politique de relogement des familles. Elles ont été relogées en province autour de la région de Manille, dans des sites de relogement. Donc là, il y avait vraiment, encore une fois, on voit l'importance de la famille parce que c'était relogé par famille, c'est pas relogé par personne. Ils relogeaient pas les personnes seules. Donc ils relogeaient la famille. Il y avait vraiment cette approche entre le ministère des Affaires sociales et le ministère du Logement. Ça n'a pas vraiment permis à ces familles de sortir de la pauvreté parce que là où elles étaient relogées, il n'y avait ni école, ni lieu de culte, ni travail. Et elles se sont retrouvées à devoir rentrer à Manille et puis vraiment vivre de la mendicité. où avant, elles arrivaient encore à vendre un petit peu de bouteilles d'eau, du journal ou des cigarettes au feu rouge. Là, c'est, après le relogement, c'est même plus le cas. Donc, pour répondre à votre question, statistiquement, la pauvreté diminue aux Philippines, mais l'écart entre la grande pauvreté et la classe moyenne inférieure augmente, donc l'inégalité augmente, même si la pauvreté diminue.
Et dans cette classe de gens extrêmement pauvres, est-ce que vous diriez que la famille, finalement, c'est tout ce qui reste, c'est la seule richesse ?
Il y a la famille et la communauté, je pense qu'il y a ces deux niveaux-là, mais la famille est une communauté, je pense, dans ce contexte de grande pauvreté. Je vais vous donner un exemple, une famille du cimetière que je connais, ben, tout le monde contribue à la vie économique de la famille, c'est-à-dire que le papa, il va construire des mausolées, et puis la maman, elle va nettoyer un petit peu les jardinières, ça leur permet d'avoir un petit peu de revenus quand les visiteurs viennent, et puis les enfants vont peut-être vendre des fleurs de jasmin ou récupérer la nourriture pendant les enterrements. Aux Philippines, on apporte de la nourriture pendant les funérailles, c'est normal de manger pendant les funérailles, mais quand les personnes... Quand l'enterrement est fini, on ne peut pas sortir la nourriture, donc c'est le rôle des enfants. C'est-à-dire que tous les membres de la famille sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour contribuer à la survie économique.
Ouais. Vous nous avez parlé du cardinal Tagle. Le cardinal Tagle disait que les couples ne se séparent pas parce qu'ils veulent divorcer, ne s'entendent plus ou sont en conflit. Non, ils se quittent et se séparent de leurs enfants parce qu'ils s'aiment et que la meilleure façon pour eux de s'occuper de leur famille et de les faire vivre, c'est d'aller travailler à l'étranger. Il y a un sujet majeur d'émigration massive que j'ai découvert en travaillant sur cette émission, Jérémy Annie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, il y a eu des enquêtes qui ont été menées d'ailleurs sur ce sujet. Donc c'est les, on dit aux Philippines OFW, c'est les Overseas Filipino Workers. C'est presque une institutionnalisation de la migration, puisqu'il y a des agences spécialisées qui recrutent des profils en général de catégories socio-professionnelles basses. Donc, on va être dans des emplois plutôt d'aide ménagère, de gouvernant ou de maçonnerie ou d'électricien. Et ces agences envoient les papas ou les mamans. Hein, la famille reste aux Philippines, souvent dans un pays du Moyen-Orient, dans des pays où il y a des systèmes pénaux quand même assez stricts, et ça pose de gros problèmes d'ailleurs aujourd'hui aux Philippines, parce qu'il y a eu des abus. Donc ils ont créé une commission spéciale pour ces personnes, c'est-à-dire qu'elles peuvent plus quitter les Philippines sans être passées par une séance de formation organisée par le gouvernement philippin pour qu'elles soient informées de leurs droits et de leurs devoirs à l'étranger. Il y a une diaspora philippine, je crois que c'est 6 ou 7%, c'est beaucoup quand même, hein, sur 120 millions d'habitants. Ouais.
Et sur un autre plan, peut-être pour finir, Jérémy Yanni, les Philippines sont l'un des pays les plus croyants au monde. On recense 80% de catholiques et 11% de protestants. Le protestantisme, notamment évangélique, est en pleine expansion partout dans le monde. Vous qui vivez aux Philippines, est-ce que vous confirmez cette poussée et comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, je fais ma thèse sur la conversion, justement, le passage du catholicisme à l'évangélisme. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Particulièrement parce qu'il est visible dans l'archipel, mais la façon de compter, en fait, de dire 10%, 20%, 30%, c'est un petit peu difficile parce que les évangéliques font des baptêmes de masse. Par exemple, la communauté que j'étudie évangélise en prison et puis ils vont baptiser 300 personnes un petit peu comme un bulk. Ils disent un bulk baptismal, ça veut dire un baptême en gros, quoi. Et il compte 300 personnes, mais est-ce que ces 300 personnes vont vraiment embrasser la vie chrétienne telle qu'elle est entendue par la communauté ? Ça reste à voir quand elles sortiront de prison. Donc je suis toujours assez méfiant des statistiques qui reflètent pas forcément l'expérience des personnes, mais c'est vrai qu'on peut pas nier qu'ils sont de plus en plus visibles dans le paysage de l'archipel philippin. Il y a des petites églises pentecôtistes, baptistes et born again un petit peu partout. C'est des personnes qui bricolent un petit peu avec les ressources culturelles et économiques qu'ils trouvent sur place. C'est pas forcément des financés par des... C'est pas forcément de l'ingérence états-unienne, quoi. Mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a une expansion, c'est visible. Mais c'est moins fort qu'au... Il me semble que c'est moins fort qu'au Brésil, je dirais. Aujourd'hui, il faudra en reparler dans 20 ans.
Sur le plan spirituel, comment est-ce qu'ils vivent leur foi ?
Les catholiques ou
les catholiques et les protestants.
Il y a quand même des différences marquées. Les protestants sont très dans l'évangélisation, c'est-à-dire s'insérer dans les politiques locales en participant à des missions médicales, ce qui leur permet de partager la Bible. Il y a vraiment ce devoir incarné d'évangéliser chez les protestants évangéliques, qu'on retrouve aussi dans le catholicisme, mais c'est beaucoup moins fort. Et d'ailleurs, Les évangéliques vont beaucoup plus dans les quartiers très pauvres que les missions catholiques. Ça questionne d'ailleurs l'Église catholique, puisqu'elle en est consciente aux Philippines. Ouais.
Merci beaucoup, Jérémy Yanni, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous, auditeurs d'Orient Extrême, pour votre fidélité. N'hésitons pas à relayer largement ce podcast autour de nous et à prier pour les familles, notamment les familles en difficulté, qui sont l'intention de prière du pape François pour ce mois de mars. Excellente semaine à vous, amis du Terre. Que la paix soit avec vous.